Tous les jours à 12h15 et 19h15,
Je vous dis pas,
votre magazine d'information locale.
Le musée de la pêche et du sauvetage en mer sur l'île d'Yeusse et quai de la Chapelle, visite en compagnie de la présidente Dany Tarot. Bonjour Dany.
Bonjour Laurent.
Et du guide Jean-Michel Péot, ancien marin-pêcheur. Bonjour Jean-Michel.
Ah, bonjour à tous les deux.
Avant de devenir le musée de la pêche, qu'abritait le bâtiment, Dany ou Jean-Michel?
L'école de pêche. Depuis combien d'années, Jean-Michel?
Juste après la guerre.
Aussitôt la guerre, voilà.
Donc, vous êtes arrivé quand pour le musée de la pêche?
Moi, je suis arrivée là il y a une bonne vingtaine d'années. Il y avait déjà un petit existant avant avec Jean-Baptiste Moreau. Il y avait déjà toute une équipe qui avait mis des maquettes ici. Et donc, moi, je suis arrivée là dans le cadre d'une formation à l'école de pêche pour le tourisme. Il fallait qu'on choisisse un projet. Et le projet était l'abri du marin. Et en fait, je me suis embarquée dans une longue histoire puisque derrière s'est greffée l'histoire du corsaire.
Le corsaire aussi, c'est une part importante de l'île-Dieu.
C'est une part importante puisque aujourd'hui, il reste exactement combien de bateaux, Jean-Michel?
Il reste 32 bateaux pour 150 marins.
32 bateaux de pêche au large?
Tout compris. 9 au large et le reste côtier.
Et avant, quand vous avez débuté en tant que marin sur l'île-Dieu, il y avait combien de bateaux?
Rien que dans la petite vidéo qu'on poste au début du musée, il y a, je crois qu'il y a 150 bateaux pour 500 marins, en 90.
Et comment vous voyez les choses dans l'avenir?
Je ne vais pas être pessimiste du tout, je ne l'ai jamais été au niveau de la pêche. On a des aléas, on a toujours eu des aléas. On a des gros problèmes au niveau européen, c'est sûr, hein, qui empêchent les jeunes de se lancer, parce que je suis sûr qu'il y en a qui voudraient bien se lancer. Et c'est surtout au niveau de la pêche hauturière qui a des soucis. Ils ont énormément de contraintes, de réglementations qui les obligent à se restreindre. Et c'est ça qui est à craindre pour l'avenir.
Surtout par rapport aux quotas, non?
Oui, entre autres les quotas. Mais il n'y a pas que les quotas. Il y a des réglementations, des obligations. Le non-rejet, entre autres, qui est en train de s'appliquer. Je pense que la pêche côtière a beaucoup plus de... Il y aura toujours du moins la pêche côtière, parce que ça existera toujours autour des ports du littoral. Ça, c'est pas un souci. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans des grands ports de pêche, je vais en citer un à La Rochelle, c'est la pêche artisanale qui l'a sauvée, La Rochelle, là, c'est quand elle s'est écroulée.
Qu'est-ce que vous appelez la pêche artisanale?
La petite pêche, la pêche d'artisan, comme ici à l'Île-Dieu. La Rochelle, c'était des industriels qui généraient le plus de revenus sur ce port. Et quand ça s'est écroulé, c'est les artisans qui ont repris le dessus sur La Rochelle. Donc, malgré tout, on existera toujours, je pense.
Donc, pour l'île-Dieu, ça va être sensiblement la même chose, non, vous pensez?
Je pense que l'artisanat restera toujours en place. Mais bon, ce qu'il faut espérer, c'est que ça s'éteigne le moins vite possible. Et qu'on ne vienne pas non plus du genre de Belle-Île ou l'île de Saint, enfin les autres îles de moins. Parce qu'on est quand même la seule île française à avoir une économie encore de pêche qui génère du monde et du travail ici.
On était en décembre à soutenir les pêcheurs de l'île-Dieu qui manifestaient à Nantes avec tous les ports vendéens. Et moi, j'étais frappée par la jeunesse des équipages dans tous les ports. Vraiment, il y a de la reprise dans les ports vendéens. Et là, vraiment, j'ai dit, les équipages, c'est une trentaine d'années, quoi. Vraiment, j'ai dit, là, il y a vraiment de la reprise à côté de ce qu'on a vu il y a 20 ans, où c'était des équipages vieillissants. Là, vraiment, la relève est assurée.
Les jeunes sont toujours motivés par la pêche sur l'île-Dieu?
Sur l'île-Dieu, oui, parce que quand on voit, par exemple, sur certains bateaux qui ont une moyenne d'âge de 30 ans, on peut dire qu'il y a encore des jeunes qui sont intéressés par la pêche.
Est-ce que vous pensez que les patrons pêcheurs, futurs patrons pêcheurs, sont frileux actuellement de devenir patrons pêcheurs?
Oui, il y a des grandes chances, oui. Il y a des très grandes chances. Justement, c'est dû à toutes ces réglementations qui les bloquent. Et puis, on a un gros souci aussi sur l'île-Dieu qui est quand même assez important. C'est qu'une grosse compagnie maritime, que je ne vais pas citer le nom, a quand même récupéré beaucoup de jeunes. Et ces jeunes-là, à la limite, ils avaient un avenir aussi ici. Je ne pense pas qu'ils en aient un gros après où ils sont rendus, mais sur la pêche, ils avaient un bel avenir.
Vous pouvez citer la compagnie maritime. Hein.
Ah bon, mais c'est la compagnie Yeux Continent.
Vous pensez que la compagnie Yeux Continent fait du tort à la pêche sur l'île-Dieu?
Ah, je ne dis pas du tort, je ne vais pas dire du tort, mais à inciter un bon nombre de jeunes à venir grossir leur rang. Je comprends qu'au niveau économie et puis au niveau des ménages, certains ont...
La sécurité de l'emploi.
Voilà, on franchit le pas, hein, ça c'est sûr.
Et la qualité de vie, forcément, mais... aujourd'hui, celui qui est à la pêche, je pense qu'on peut dire qu'il gagne quand même bien sa vie. Hein, franchement, celui qui travaille, je pense qu'il gagne bien sa vie.
Ouais, tous les bateaux hauturiers actuellement, enfin moi je vais citer les hauturiers, entre autres, je pense qu'au niveau salaire, ça marche très bien, quoi. C'est des bateaux réguliers et c'est des patrons qui travaillent bien, qui sont... c'est bien cadré, quoi. Voilà, après c'est un choix. Ceux qui sont accros à la pêche, L'accro, il va y rester, malgré les problèmes qu'ils vont générer. Mais bon, après, il y a aussi des gens qui sont tentés pour certaines autres choses.
Même ceux qui font la petite pêche aujourd'hui, par exemple les pêcheurs de bar, franchement, je pense qu'ils n'ont pas à se plaindre. Au niveau prix, au niveau cours, je pense que ça le fait. Et il faut quand même garder espoir dans cette économie sur l'île, qui est quand même importante, qui fait partie aussi de tout un passé maritime.
J'ai l'impression que la petite pêche se développe plus que la pêche au large sur les lieux, non ? Ou c'est une impression ?
Je veux dire que quand il y a un nouveau bateau à venir, c'est un petit bateau, quoi. C'est la petite pêche. Ce ne sera pas un grand navire. Parce que, à ce que j'ai entendu et de ce qu'on m'a dit, on a la possibilité, je crois, au niveau de la CAF, donc c'est l'armement coopératif vendéen, de faire des bateaux neufs et on n'a aucun équipage. Quoi.
Je pense que c'est vrai.
C'est ça le problème. Quoi.
On va revenir peut-être au musée de la pêche. Quelle période de la vie maritime de l'île-Dieu pouvons-nous connaître au musée de la pêche sur l'île-Dieu ?
De tout. Je parle de tout. Il suffit qu'on rentre dans un petit sujet et on le développe. On peut parler de la pêche à la voile comme à la pêche moderne actuellement. C'est aucun problème.
Donc, de quelle année à quelle année, pour donner un ordre d'idée ?
On va dire de 1900 jusqu'à aujourd'hui.
Ah oui, c'est une grande période tout de même qu'on retrouve.
Oui, non, mais il n'y a aucun souci. J'ai la documentation et dans les cases de ma petite tête aussi.
Jean-Michel, par contre, comment se déroule un petit peu la visite ? Comment débute la visite, surtout ?
La visite débute par une petite vidéo là, qui dure un quart d'heure, 20 minutes, sur la pêche à l'île-Dieu, justement, des années 90. Alors, c'est pas un mauvais choix, à la limite. Moi, je trouve que c'est très bien, parce que c'est l'année où on a commencé le démantèlement de la flotte européenne, donc plan Mélique. Et de cette date-là, 90, à aujourd'hui, les gens, quand ils montent là, me posent la question « Et maintenant ?»
Et vous répondez quoi à la question « Et maintenant, alors ?»
Et maintenant, je leur dis que de 150 passants de bateaux, on est passé à 32 et que de 500 hommes d'équipage, on est passé à 150. Et là, on développe après pourquoi.
Et c'est quoi leur réaction et pourquoi ?
Ils sont tous étonnés, bien sûr. Au niveau national, je pense que beaucoup de gens n'ont pas pris l'impact de cette économie qui est tombée assez rapidement. Dans les 15-20 ans, on a perdu les trois quarts de la flotte française, marins compris, bien sûr. Donc, il est évident que ce qui a pris le relais, c'est tout ce qui est importation.
Et la pêche au thon est une partie importante du musée sur l'île-Dieu ?
Oui, c'est ce qui a généré un gros, gros, gros patrimoine dès le départ, dès les années 1900. Hein, c'était la plus grosse des pêches pratiquées ici. Pas oublier que l'île-Dieu a été un des premiers ports de pêche au thon. Donc, fatalement, il faut en parler. Et puis, on a des choses à dire, on a des choses à faire voir, on a des choses à expliquer. D'où le corsaire.
Il y a beaucoup de gens qui vous posent des questions par rapport à la pêche au thon sur l'île-Dieu. Comment c'était ?
Forcément, oui. Parce que dans la vidéo, justement, on en parle beaucoup. Donc, fatalement, on est obligé d'y venir.
Vous nous avez parlé de la vidéo, qu'elle est de 1990. À quelle date ?
C'est les années 90, 90, ouais. 92, 90 à 92 à peu près.
Ouais, c'est un film qui avait été réalisé par le comité local à l'époque, et qui est vraiment très très bien fait. Il explique vraiment d'avoir toutes les pêches qui pouvaient être pratiquées sur l'île à l'époque. Et la criée était encore, c'était l'ancienne criée. Donc c'est toute une histoire de l'île là, qui est importante, qu'il faut quand même qu'on raconte. Et ça génère aussi beaucoup de questions, comme dit Jean-Michel. Donc c'est important d'en parler et puis de continuer à passer ce film.
Au musée, on retrouve des maquettes de bateaux exposés. Ça fait partie et ça faisait partie de la flottille de l'île-Dieu ?
Oui, il y en a une partie là. C'est des bateaux qui ont été à l'île-Dieu, bien sûr. Mmh. À part deux ou trois qui ont été faits pour montrer ce que c'était ce genre de bateau. Hein, mais les autres, oui, c'est des bateaux de l'île-Dieu qui ont été refaits en maquette. Oui.
Il y a combien de maquettes de l'île-Dieu exposées au musée ?
4-5. Il y a 5 maquettes.
Et les noms des bateaux, si vous pouvez nous les donner ?
Ah ben, bien sûr, il y a le Petit Prince, il y a la Vierge de la Meule, le Corsaire, le Capi. Et l'autre bateau moderne, on va dire qu'on n'a pas trop de noms, c'est un mélange du Lutin des mers et du Requin Bleu.
Vous avez essayé d'exposer toutes les époques de la pêche sur l'île-Dieu dans ces maquettes ?
Non, c'est, ouais, si on veut les époques, c'est surtout le changement des bateaux à mesure des années. Hein, d'avant 1900 jusqu'au bateau moderne, qui est le Flyer actuel.
Donc on parle du bateau à voile au bateau à moteur.
C'est ça. Et de la transformation du dindé, ce qu'on a appelé le dindé, qui a fait énormément parler de lui entre 1900 et 1950, à peu près, pendant plus de 50 ans. Et de ce bateau qui a navigué aussi à l'île-Dieu et qui a été transformé en moteur.
C'est quoi le Dundee ?
Le Dundee, c'est un voilier qui a été conçu pour la pêche au thon, spécialement.
Spécialement pour l'île-Dieu ou même aussi pour le continent ?
Non, c'est général. C'est les Bretons. C'est un Breton qui a transformé son bateau le premier. Mm-hmm. Un gréement, le Dundee, c'est un tout. Mais le gréement, c'est un gréement Dundee qui vient d'Angleterre, qui a été inspiré d'un voilier qu'on appelle le yak en Angleterre, sur les côtes anglaises. Et ce Breton, c'est un groisillon en plus, qui a fait naufrage en 1871 avec un cotre. Et il s'est rendu compte que ses gréements, tout ça, c'était pas bien. Donc il a été voir en Angleterre, et il a gréé son cotre avec un gréement de Dundee. Et après 1900, on a créé la coque qui allait mieux sur ce gréement. Et ce qui a donné le dindé qui a navigué dans les eaux du Golfe pendant plus de 50 ans.
Il y a aussi beaucoup d'appareils de navigation au musée.
Oui, c'est surtout du matériel qui a été donné quand justement la pêche se cassait la figure. Mm-hmm. La démolition des bateaux dès les années 90. Donc il y a des radios, des VHF, des sondeurs, un petit peu de tout, quoi.
Est-ce qu'il y a certains appareils qui ont une histoire particulière ?
Oui, tout à fait. Il y a un poste, justement, que j'ai su de l'été dernier, que le monsieur est venu me demander s'il est toujours là. Un poste qui vient d'un bateau de Djibouti, un bateau construit au Sable d'Olonne, un bateau scientifique qui a été coulé volontairement par les Somaliens à Djibouti. Et le monsieur a réussi à sauver du matériel, dont le poste qu'il a offert au musée de la pêche de l'île-Dieu.
Et cette personne, c'était un Belge, c'est ce que vous
non,
nous disiez,
non, pas du tout. Pas celui-là. Celui-là, c'était le Belge, c'est pour l'illustration du canot sauvetage. Celui-là, c'est un monsieur que je connais absolument pas. Il s'est même pas présenté, même pas donné son nom. Il est juste venu voir si le poste était toujours là. Uh-huh. Moi, je lui ai demandé de me dire pourquoi, parce que je ne savais absolument pas pourquoi il était dans ce poste. Et il m'a raconté l'histoire. Et il va revenir parce qu'il vient tous les étés ici. Il a une maison. Donc je pense qu'il va revenir l'année prochaine, parce qu'il m'a demandé de retrouver l'histoire de ce bateau, chose que je me suis attelé à faire forcément, parce que je ne peux pas rester sans savoir d'où ça sort.
Ouais.
Donc j'ai tout trouvé. Alors maintenant, il n'a plus qu'à revenir pour avoir l'histoire de son bateau qu'il a eu là-bas en commandement et qui a coulé.
Est-ce que certains appareils sont toujours en fonctionnement et on peut les faire fonctionner ?
Ah ben bien sûr, il y a tout le fond. Tu as un sondeur... VHF et puis radar, tout fonctionne, bien sûr, oui.
Il y a aussi un filet. Pouvez-vous nous parler du filet qui se trouve aussi dans la même pièce ?
Un filet. Derrière, là-bas ? Oui, ouais, bon, c'est que... Il a été reconstitué un petit parc, hein, comme les filayeurs actuels, avec une bosse dessus. Donc, c'est des filets à thon qui sont dedans. Mm-hmm. C'est plus en mémoire au métier qui a été pratiqué à l'île-Dieu pendant une dizaine d'années et qui nous a été retiré par l'Europe.
C'est un filet maillant dérivant, non ?
C'est ça, oui. Il y en a deux ou trois différents modèles, mais c'est le filet maillant dérivant. Au moins, on a des exemplaires au musée.
Et dans la pièce principale, au-dessus de nous, il y a aussi un filet. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce filet?
Ben, au-dessus de vous, c'est un chalut. C'est un petit chalut qui a été fabriqué par les mousses de l'école des pêches. Et ben, il a été exposé là, et puis je pense qu'il va rester là de nombreuses années, j'espère. Qu'on n'aura jamais à déménager de cet emplacement, du moins.
Les gars qui l'ont fait, ils ont 59 ans aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas tout nouveau.
C'est vraiment l'histoire de la pêche à l'île-dieu, le musée de la pêche.
Ah ben tout à fait, ah. C'est pour ça que je me bats des fois, parce que on dit le musée de la mer, non, c'est pas le musée de la mer, c'est le musée de la pêche. On exprime des choses sur la mer, mais avant tout, c'est la pêche.
Il y a aussi pas mal de photos à découvrir et de textes.
Oui, ben, il a fallu aussi agrémenter, bien sûr, en photo et en texte. En texte, parce que des gens aiment bien aussi lire et rester un moment, se documenter. Donc on ne peut pas tout leur expliquer verbalement, il faut bien aussi qu'il y ait des textes. Ce qui sert aussi à en discuter, parce que ben, y a des gens qui ne comprennent pas forcément comment c'est écrit et ce que ça veut dire.
On a parlé tout à l'heure du début de la visite, ça débute par une vidéo dans une salle de classe.
Oui, ben, on a reconstitué avec mon camarade Marcel, qui est le compagnon à Dany d'ailleurs. Mm-hmm. On s'est attelé à refaire une petite salle de classe pour un petit clin d'œil sur le fait que le musée était l'école des pêches.
Ouais.
Et puis ben, ça donne un petit attrait supplémentaire. Je pense que ça plaît beaucoup quand ils arrivent là, ils sont surpris.
Et la dernière pièce, c'est exclusivement des photos.
À la pièce du haut, oui, c'est une, oui, ça sert aux expositions. C'est une pièce qui est prêtée à des exposants, entre autres certaines fois dans la saison, sur des thèmes exclusivement l'île-dieu ou la mer, ou les bateaux. Hein. On ne veut pas sortir de ce contexte-là.
Et après la visite, les questions des visiteurs, à part la pêche au thon, ils ont d'autres questions?
Oh là là, oui. J'en finis même pas parce que...
Ouais.
Je bavarde beaucoup.
Ou...
Ah oui, non, c'est du hard. Hein.
Ouais.
Ah ouais, on parle beaucoup du poisson, la commercialisation et le pourquoi ils ont du poisson à l'étranger, d'étranger, pourquoi. Là, les gens ne comprennent pas.
Et vous répondez quoi alors à cette question?
Ben, je réponds que les gens n'en mangent pas assez.
On leur parle aussi des AMAP, qui est quand même une très très bonne idée et qui prend une ampleur énorme, puisque maintenant les pêcheurs de l'île-dieu ont des AMAP jusque sur Angers, Saumur, autour de Saint-Nazaire, autour de Nantes. Donc vraiment, ça devient l'équivalent d'un 13e mois pour les bateaux, c'est quand même énorme.
Dany, tu peux nous rappeler ce que c'est des AMAP?
Alors l'AMAP, c'est une organisation comme les paysans peuvent vendre leurs légumes, les pêcheurs se rajoutent à ces marchés de légumes pour vendre leurs poissons au même endroit. Et à peu près, là en ce moment, il y en a une fois par semaine. Donc celui qui s'engage à une AMAP, il donne, ça dure 10 mois, il donne 10 chèques pour l'année. Et donc il a 3 kilos de poissons à chaque fois, 3 kilos, 3 kilos 5 pour, c'est disons une trentaine d'euros, 35 euros. Et donc, ça peut aller du merlu à de la sole, à du bar. Ça dépend ce que les pêcheurs ont pêché. Ils s'arrangent entre eux pour un petit peu essayer de varier les poissons. Et ça, vraiment, il y a une relation, je dirais quasiment d'amitié avec ces gens-là. Chaque patron pêcheur s'engage à aller les voir, ce qu'ils font d'ailleurs. Mm-hmm. Et bon, ils savent où ils pêchent le poisson. Il y a une relation... humaine qui se passe, et vraiment, je trouve que pour les pêcheurs, c'est énorme de faire découvrir leurs poissons de cette façon-là.
Est-ce que les gens vous parlent des conserveries, ou pas du tout, au musée de la pêche, durant leur visite?
Oui, ben, ils nous demandent s'il y a eu des conserveries, ouais. Et s'il y en a, bien sûr, mais on est bien obligé de leur expliquer que cette économie s'est effondrée, bien sûr. Mais maintenant, les deux conserveries qu'il y a, il y en a une un peu plus industrielle que l'autre. Ça génère aussi quand même des bons produits qu'il faut que ça reste sur l'île, et puis ça profite à tous les touristes aussi, ça.
Le musée est ouvert à l'année? Comment ça se passe un petit peu? Ou c'est juste en période estivale?
Il est ouvert du mois de Pâques, oui, jusqu'à fin septembre, mi-octobre à peu près, quoi. Le reste du temps, c'est... il suffit de m'appeler. Si je suis là, c'est bien volonté que je fasse la visite. Ça ne me pose aucun problème, bien au contraire. Puis je pense qu'il faut toujours que ce bâtiment soit accessible malgré tout.
La visite est gratuite et payante ?
La visite est payante. Elle n'a pas augmenté depuis pas mal d'années.
Depuis 6 ans.
Depuis 6 ans.
Et on est toujours au même tarif, franchement. Ouais. Quand les gens viennent, c'est quand même cher de venir à l'île-Dieu, il faut le reconnaître. Hein, quand on paye le bateau, la location du vélo et tout. Et donc, si on veut avoir quand même un petit peu de monde, on reste toujours au même tarif. Ouais. On a une petite boutique en bas, donc des fois les gens, quand même, ils achètent des petites choses. Et puis, on fait des manifestations. On fait une sardinade là, qui sera cette année le 9 mai. Et on fera la Cotriade de Merlu le 21 août. Donc ça nous apporte un petit financement en complément, parce que le musée par lui-même, il sert juste à payer Jean-Michel, qui n'est déjà pas payé trop cher. Donc voilà, et puis le reste, il faut ça un petit peu pour le reste, pour continuer à réparer le corsaire, et puis avoir un petit fond de caisse malgré tout. Donc ces manifestations nous aident. Et derrière ça, on a quand même énormément de bénévoles qui viennent. Les trois quarts, on n'a même pas besoin de les demander, parce que maintenant la routine est installée, ils arrivent, voilà.
Tant mieux pour vous.
C'est extraordinaire. Et on a nos chanteurs qui viennent aussi bénévolement. Enfin bon, c'est toute une histoire d'amitié et de générosité à travers l'association. Donc ça, c'est ce qui nous porte et qui nous aide à tenir.
Dany, vous nous avez parlé de la boutique du musée. On retrouve quoi dans cette boutique à acheter ?
Alors, ça peut être du porte-clés, ça peut être du t-shirt, ça peut être des casquettes. On a eu des chocolats longtemps avec les bateaux de l'île-Dieu. Enfin, ça y est, on a liquidé le stock, on n'en a plus. On va avoir d'autres projets pour la saison qui arrive. Là, on va avoir d'autres... Je pense qu'on va avoir des demi-coques qui vont nous être donnés. Donc, je pense que cette année, ce sera intéressant de venir à la boutique. Même si on ne vient pas au musée, on a aussi des petites piattes qui sont faites par un copain de Jean-Michel, un gars de Saint-Gilles, qui sont extraordinaires. Donc on invite tous ceux qui ont des petits-enfants, même s'ils ne viennent pas faire la visite du musée, ils viennent à la boutique, ils viennent acheter une petite barque qu'on vend autour de 10 euros. Franchement, c'est pas cher. Et ça aide aussi à faire vivre le musée et puis à faire connaître ce qu'on fait. Donc on invite tous les gens là, qui nous écoutent à venir nous voir à la boutique quand on sera ouvert. Il n'y a pas de souci.
Jean-Michel, si des gens ont des trésors dans leur archive sur la pêche de l'île-Dieu, vous êtes preneur pour les exposer ?
Ah ben ça pose aucun problème. Je récolte partout où je peux. Et tous les ans, ça fait 5 ou 6 ans maintenant que je m'occupe réellement de la chose, j'ai tous les étés des gens qui m'amènent quelque chose. Tout le temps. Que ce soit photo, que ce soit document ou que ce soit matériel, j'ai toujours quelque chose.
Y a-t-il des objets que vous recherchez en particulier ?
Non. Non, pas. J'ai rien de particulier. On va dire qu'on m'amène des choses que certaines personnes ne savent pas ce que c'est.
Et vous avez un exemple ?
Ah oui, ben ça, toi, en bas, la pièce en ferraille. Hein.
Ferraille verte ?
Non, noire.
Noire ? D'ailleurs, c'est quoi cette pièce en ferraille noire ?
C'est ce qui se mettait sur les guis des voiliers en bois, là. Mm-hmm. Et ça servait à mettre les écoutes dessus, quoi. Parce que le gui était en bois, mais cette pièce en ferronnerie était adaptée dessus. Voilà, en tête de mort, entre autres, puis les poulies, tout était pris dessus. Et le monsieur, il m'a emmené ça, il me dit, je ne sais pas ce qu'on m'a donné, et on m'a donné ça dans le temps. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je lui ai dit, puis du coup, il l'a laissé là. Il me dit, ça ne me servira pas.
Recherchez-vous un objet en particulier que vous n'avez jamais trouvé, que vous aimeriez trouver ?
Un objet en particulier ?
Ouais.
Non, j'ai pas là comme ça à venir.
De tête comme ça, non ?
Non. J'ai fait refaire un filet à sardines, un filet droit à sardines qui est derrière là.
Qu'on trouve dans la pièce principale.
Là, là, il est là, avec les boulinches en haut là. Parce que j'estime qu'ici, il en fallait un parce que l'idieu a pêché la sardine au filet droit. Un filet tournant, c'est même pas la peine de compter d'en avoir un parce que ça prendrait beaucoup de place et puis il n'y en a plus certainement plus à courir. J'ai même prospecté sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, j'en ai jamais trouvé. Ouais. Mais ça, j'ai retrouvé des plans pour en refaire faire un. Donc j'ai un copain qui me l'a refait. Bon, c'est un morceau, c'est pas un entier. Mais c'est au moins donner l'idée de ce que c'était, quoi. On peut au moins discuter dessus. Mm-hmm. Et puis après, le reste, je pense que j'ai quand même beaucoup de choses dans ce musée qui peuvent parler, quoi.
Ça recèle plein de trésors.
Oh là là, oui. Donc il faut venir les voir.
Exactement. Dany, dis-nous, est-ce qu'il y a des projets pour le corsaire ?
Donc on a restauré le corsaire, et donc c'est quand même malgré tout dans un but pédagogique. Et autour de ce corsaire, on va organiser un concours de dessin pour les enfants du primaire, parce que chaque enfant de l'île-dieu a dans son histoire un père, un grand-père qui a eu un bateau. On va leur demander de dessiner le bateau de leur choix, et après on va faire le concours de meilleur dessin. Donc on va faire ça avec les deux écoles, le privé et le public. Le Ponant a déjà répondu présent. On n'a pas encore de réponse du privé, mais je pense qu'ils vont participer aussi. Et donc derrière ça, on offrirait aux enfants un lot, par exemple, on pense que ça va quand même leur plaire, c'est d'assister à l'élitreuillage à bord du canot de sauvetage. Mmh. Donc je pense que les enfants, ouais, ça peut être quelque chose qu'ils n'ont quand même pas l'occasion de faire. Et puis après ça, il y aura d'autres lots, on va un petit peu peut-être solliciter un petit peu les commerçants, on verra, ou trouver d'autres idées. Mais déjà, je trouve que c'est bien d'intéresser les enfants au patrimoine maritime, parce que c'est quand même un passé important à l'île-dieu, et qu'il faut que nos enfants, nos petits-enfants, ils sachent tout ce qui s'est passé. Donc en essayant de rechercher dans leurs archives familiales, dans leurs bateaux, eh ben, je pense que c'est intéressant pour tout le monde.
Les dessins des enfants seront exposés au musée de la pêche ?
Ils seront exposés au musée de la pêche. Peut-être qu'on fera une petite manifestation ce soir-là. Peut-être un petit bar, un petit crêperie, je ne sais pas. On verra, on ne manque jamais d'idées pour faire quelque chose. Donc ça va se passer autour du mois de juin. Donc d'ici là, on a rendez-vous avec déjà l'école du Ponant le 3 mars pour discuter un petit peu de ce qu'on va faire. Donc on vous tiendra au courant pour faire l'évolution du projet.
Merci Dani, à très bientôt.
Merci à vous les gars, merci infiniment de nous intéresser au musée de la pêche. Et puis bonjour et merci à tous ceux qui nous écoutent.
Merci Jean-Michel, à très bientôt.
Ok Laurent, à très bientôt, merci.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas avec Annabelle Chauvito, guide conférencière nationale au service patrimoine à la mairie de l'Île-Dieu, pour nous faire visiter sur place la grotte du Trou du Pigeon et les lieux qui l'entourent. C'est à découvrir demain dans Je vous dis pas. Bye bye.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com.